We are going to start in 2 minutes.
Nous allons commencer dans 2 minutes. David, est-ce que vous pourriez venir ici à la table, s'il vous plaît?
Okay, let's start the meeting. Ryan, please.
Bien, nous allons commencer notre réunion. Si on peut afficher à l'écran, s'il vous plaît. Yone, s'il vous plaît, venez au panel. Nous allons commencer cette séance. Est-ce que quelqu'un du ERSAC ou du conseil d'administration n'est pas encore assis ici au panel? Si ce n'est pas le cas, venez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue à la séance publique conjointe Conseil d'administration ICANN-ERSAC. Je vais commencer cette réunion en commençant par une présentation de tous les membres assis ici à la table. On va commencer par Georges. Georges, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Georges Sedarski, David Conrad, CTO ICANN, Avery Doria, Conseil d'administration, Ron Stevenson, DOD ERSAC, Yoni, liaison Conseil d'administration, Lito Ibarra, Conseil d'administration, Cave, liaison ERSAC au Conseil d'administration, Brad, coprésident ERSAC, Tripti Chesak, coprésidente, Sherine Chalabi, Conseil d'administration, Christy Spain, Conseil d'administration, Becky Heber, Conseil d'administration, Raham, Conseil d'administration, Raji Marliban, membre ERSAC, Jeff Osborne, Conseil d'administration, Daniel Bigot, liaison ERSAC, Conseil d'administration, Yoran Marby, organisation ICANN. Nouvel intervenant au micro, merci beaucoup. Et Russ Mundy, liaison ERSAC au Conseil d'administration. Excusez-moi, j'arrive rapidement. Plusieurs excuses également de plusieurs membres du ERSAC qui ne sont pas là, qui ont dû prendre des vols pour Londres pour la réunion de l'IETF. Nouvel intervenant au micro. Alors, laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une réunion informelle. Bon, réunion formelle entre le conseil d'administration et le ERSAC, mais on préfère que ce soit une discussion informelle. On a une série de questions, mais on veut que ces questions nous permettent d'orienter nos discussions, mais ce qui nous intéresse réellement, c'est d'avoir un dialogue. Alors peut-être que les opinions déclarées seront des opinions personnelles des membres ERSAC. Il ne s'agira pas évidemment de décisions. Les décisions sont toujours envoyées par le ERSAC dans son ensemble au conseil d'administration. Mais en tout cas, on veut saisir cette opportunité s'il y a des questions, des commentaires à poser pour utiliser cette séance pour le faire. Pouvons-nous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Voici les questions du conseil d'administration au ERSAC. Donc, il y avait 2 questions. On va commencer par la première question. Quels sont les principaux objectifs du ERSAC pour 2018? Je vais laisser le soin au président de répondre. Nouvelle intervenante au micro. Merci, Cave. Merci de cette question. Par rapport à nos principaux objectifs pour 2018, ils sont au nombre de 3. Je vais commencer par le premier. Comme certains d'entre vous le savez, on travaille depuis près de 3 ans maintenant sur certains avis clés au conseil d'administration concernant la prochaine phase, ou plutôt l'évolution du système de serveurs racines. Ça a été mis en œuvre il y a quelques années et depuis, le modèle a été relativement statique et n'a pas du tout évolué. Donc, on a consacré beaucoup de temps à approfondir ce modèle et à répondre à des questions qui étaient en suspens depuis de nombreuses années. Par exemple, mesures de comptabilité, envers qui nous sommes redevables, comment est-ce que ce système est soutenu, comment continuer à évoluer dans un Internet chaque fois croissant. Donc, on a essayé de résumer nos avis en termes de calendrier. On a une version préliminaire On veut avoir une version proche d'une version finale d'ici mai lors de l'atelier de travail du ERSAC et notre idée c'est d'harmoniser cette version avec celle du conseil d'administration afin de présenter une version finale en juin. Donc, à moins d'un problème imprévu, nous allons présenter cet avis lors de la réunion ICANN 62. Deuxième objectif, il y a une révision en cours qui va probablement s'arriver en avril. À la suite de cette révision, il y aura des recommandations et nous allons présenter ces recommandations au comité pertinent. Nous avons également un caucus qui se concentre sur les aspects techniques et on a trois domaines d'activité en cours. Donc voilà nos trois principaux objectifs pour l'année 2018. Chérine Chalabi au micro. Merci beaucoup, Tripti. Par rapport à l'avis, par rapport au calendrier que vous avez mentionné, vous allez le présenter lors de la conférence numéro 62 de l'ICANN. Est-ce que vous avez dit que vous vouliez le montrer au conseil d'administration avant, c'est ça ? Nouvelle intervention au micro. Oui, lors de votre retraite à vous, celle du conseil à Vancouver. Nouvelle intervenant au micro. Oui, c'est ce qu'on nous avait demandé. Chérine Chalabi au micro. Oui, par rapport à la révision ERSAC, y a-t-il des commentaires sur l'efficacité de la révision jusqu'à présent ? Quel est votre sentiment ? Très petit au micro, oui. Pour nous, il s'agissait d'une révision organisationnelle qui consistait à voir la dynamique du comité du ERSAC et voir la dynamique générale de ce comité dans l'écosystème en général. Donc il s'agissait, je le répète, d'une révision organisationnelle du ERSAC. Et ça s'inscrit dans la discussion en cours actuellement au sein de l'ICANN entre le rôle du ERSAC et pour répondre aux questions des membres de la communauté qui demandaient à ce que le rôle du ERSAC soit mieux défini. Chérine Chalabi au micro. Oui, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que on entend beaucoup de groupes de la communauté et unités constitutives de la communauté s'interrogeaient par rapport à l'efficacité de ces révisions. Et il y a un dénominateur commun entre toutes ces préoccupations. D'abord, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de révisions et que ces révisions soient plus efficaces. Par exemple, pour l'année prochaine, il y a 9 révisions prévues. Est-ce que le ERSAC serait en faveur, puisque presque tout le monde semble dire la même chose ? Essayons d'avoir une image, un panorama plus général et essayons de faire moins de révisions, mais plus efficaces. Très petit au micro, oui, tout à fait d'accord, on aimerait apporter notre contribution effectivement et prendre un petit peu de recul pour voir l'efficacité des révisions. Quel est l'objectif et le résultat escompté de chaque révision? Et pour ce faire, il faut fournir plus de sauvegarde ou de ligne directrice par rapport à la manière dont ces révisions sont entreprises, par rapport à la portée qui doit être clairement défini des révisions. Également, les rapports doivent être instructifs et constructifs. Chérine Chalabi au micro. Oui, par rapport aux révisions, votre idée, c'est d'envoyer un rapport de documentation ou de consultation plutôt. Quelle est votre idée ? Il y aura nos micros. Oui, il y a deux choses, en fait, qu'il faut aborder ici. D'abord, ce qui est prévu dans les statuts constitutifs. Donc ça, c'est une discussion. Et ce genre de révision, je le disais, sont prévues dans les statuts constitutifs. Sinon, il faut modifier les statuts constitutifs. Et autre aspect qui me paraît très important et qui a été soulevé non seulement par vous, mais par les autres aussi, à savoir définir les objectifs clairement des révisions. Qu'attend-on de ces révisions? Et je sais que ces discussions commencent à poindre aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas de plan à ce niveau-là, encore. Or, je devrais l'avoir parce que ça a été soulevé à maintes reprises cette semaine. Et on investit beaucoup d'argent et de temps dans les révisions elles-mêmes. Et certaines révisions se sont prolongées pendant de nombreuses années. Je crois qu'à l'at-large, il y a une révision qui a pris 4 ans. Et ça, c'est une autre discussion. Donc, sur ce point en particulier, je dois dire cela et me tourner vers l'OEC et parler avec le président et avec, avoir une discussion. Bras au micro. Oui, j'allais dire que le ERSAC est en train de préparer 2 réponses. Une réponse à l'examinateur indépendant, dans l'espoir de pouvoir partager notre sentiment sur le retour d'information et par rapport au fait que nous espérons que les recommandations soient instructives et constructives, comme vous le disiez, et ensuite préparer des commentaires et notre opinion sur l'ensemble du processus qu'on aimerait partager avec l'OEC. Khaled au micro. Oui, j'aimerais partager avec vous le fait que l'OEC a eu une discussion informelle ce matin à 7h30 avec tous les membres de notre groupe. Et nous remercions le volume très significatif de commentaires que nous avons reçus de la part de la communauté. Nous apprécions également les commentaires qui ont été faits. On va s'assurer que différentes actions sont mises en œuvre. Comme Yoran l'a dit, il y aura des mesures, des actions à court terme, moyen terme et long terme. En tant que C, nous ne sommes pas appelés à prendre quelques décisions que ce soit pour l'heure, puisque pour l'instant, il faut digérer tous les commentaires et les contributions qu'on a eues de la part de la communauté. Il faut classer et analyser tous ces commentaires afin de voir s'ils sont étayés et afin qu'ils puissent éventuellement découler sur des décisions informées. Mais étant donné le fait que c'est une question très sensible, il faut absolument procéder de cette manière. Et effectivement, il est impératif de se poser la question, quel est l'impact de ces révisions sur notre organisation? Mais ça, c'est une question à long terme. Nouvel intervenant micro, merci beaucoup, Chérine. Chérine Chalabi au micro. Alors, si nous avons un moment, j'aimerais parler de l'avis sur l'évolution du serveur Racine, du système de serveur Racine. Est-ce que je peux le faire maintenant? Oui. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle des coûts. Je ne sais pas si vous serez en position de fournir des indications quant aux coûts pour accompagner votre avis, ou est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, et on l'a vu dans pratiquement toutes les unités constitutives, par exemple, ce matin, nous avons une réunion avec le ESSAC, qui nous a dit que le volume de travail auquel ils sont confrontés a des implications en termes de coûts. Et il en va de même dans l'autre sens. Tout ce qu'on nous demande de mettre en œuvre, ça a des implications en termes de coûts. Et ça, c'est une question cruciale. Est-ce que vous allez pouvoir nous donner une indication sur les coûts? Est-ce qu'il faut qu'on le travaille ensemble? Très petit au micro. Je pense qu'il y a 3 questions là-dessus. D'abord, le coût qui consiste à réunir les avis ensemble avec le comité le comité consultatif. Et quand je vois le volume de temps et d'engagement que ça représentait pendant 3 ans d'investir là-dedans, et ça n'a pas été associé avec un coût. Donc, si on veut l'appliquer, il va y avoir un coût de mise en œuvre. Simplement de mise en œuvre. Ensuite, il y a un autre coût, c'est le coût du modèle. Une fois qu'on a un modèle opérationnel en place, pour qu'il puisse fonctionner dans l'infrastructure et le service actuel, quel que soit ce modèle ou le modèle que nous allons adopter. Ça aussi, ça va représenter un coût pour les parties prenantes. Donc, il s'agit de 3 coûts différents. Maintenant, est-ce qu'on va inclure des chiffres dans notre avis ? Pas dans la version actuelle. Ça n'était pas notre objectif, parce que nous pensions que nous allions procéder de la manière suivante. Nous allions présenter l'avis, le présenter au conseil d'administration pour qu'il l'examine, puis voir quelles étaient les implications financières. Donc, procéder par étapes, examiner en profondeur cet avis et voir ensuite si c'était viable ou pas. Bien entendu, il y a le coût de mise en œuvre et le coût du modèle en soi. Nouvel intervenant micro. Oui, je pense que le processus de feedback dont Tripti vient de parler concerne la communauté, mais aussi le conseil d'administration. Sherine Chalabi en micro. Oui, donc ça affecte le système de serveurs racines et par défaut les opérateurs de serveurs racines. Est-ce qu'il y a un avis consensuel par rapport à l'accord qu'on a avec les opérateurs de serveurs racines ? Tripti au micro. Non, il y aura consensus au ERSAC. Et on a dit très clairement que tous les RSO ont des obligations qui sont contenues vis-à-vis de leur entreprise ou de leur filiale. Donc, il y aura très certainement un consensus là-dessus, à savoir, lorsque cela sera mis en place, nous pensons qu'il y aura quelque chose de bien plus vaste et ce sera un processus qui devra être mis en place par la communauté. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup de choses qui échappent finalement à notre domaine d'activité et de compétences. Nouvel intervenant micro, y a-t-il d'autres questions, demandes d'intervention sur ce point ? Si ce n'est pas le cas, je voudrais dire que Martin Lucevitz, Lito, Ron, Sarah et Matthew et Hollett et Léon sont ici dans la salle. Deuxième question du conseil d'administration au ERSAC. Quels sont les principaux objectifs à long terme du ERSAC ? Parce que le conseil d'administration travaille sur le prochain plan stratégique quinquennal. Et donc, pourquoi est-ce que le conseil d'administration nous pose cette question ? C'est pour connaître l'opinion du ERSAC comme contribution à ce plan stratégique. Donc, c'est une question très importante. Je sais que cette discussion va se poursuivre au Panama, mais pour l'heure, est-ce que les membres du ERSAC ont des commentaires à faire là-dessus ? Nouvel intervenant au micro. Oui, je pense que notre principal objectif à long terme sera la mise en œuvre de l'avis que nous allons fournir lors de la réunion ICANN 62. Là, on va attendre la réaction du conseil d'administration et ensuite l'effort que cela avait impliqué pour la communauté. Qu'avait au micro ? Oui, c'était justement l'un des principaux commentaires d'ouverture de Sherine. Pouvons-nous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît ? Donc, vous voyez les questions à l'écran du ERSAC au conseil d'administration. Pardon. D'abord, quelles sont les principales préoccupations du conseil d'administration par rapport au service de la racine ? quelles sont les pressions que le conseil d'administration perçoit par rapport au service Racine. Alors, la principale préoccupation du conseil d'administration par rapport au système de serveur Racine, c'est les menaces d'attaque DDoS qui menacent l'ensemble du système. Et d'ailleurs, ça n'est pas une menace qui concerne uniquement le système du serveur Racine. Tous les services sur Internet sont menacés. Le conseil d'administration a parlé des différentes options à disposition de la communauté pour atténuer cette menace. Malheureusement, il y a très peu d'actions que la communauté peut entreprendre, que l'organisation ICANN peut entreprendre afin d'avoir un effet immédiat sur ces menaces. La principale mesure d'atténuation à court terme semble être une capacité du serveur Racine supplémentaire. Est-ce que les opérateurs de serveur Racine ont l'intention d'étendre les capacités et est-ce qu'ils ont les ressources en termes de finances, de ressources humaines, etc. pour le faire? Voilà un petit peu la question que le conseil d'administration a évoqué en interne. Également, le conseil d'administration s'intéresse à la responsabilité générale des opérateurs de serveurs Racine qui doit être améliorée. Le conseil d'administration voit qu'il y a une demande non technique pour des opérateurs de serveurs Racine supplémentaires. Le conseil d'administration sait que l'ICANN doit prendre toutes les actions raisonnables afin d'atténuer les menaces DDoS et reconnaît également la volonté de la communauté de mettre en place une responsabilité plus grande de la part des opérateurs.
Merci beaucoup. Lors de la séance publique avec le Bureau de la technologie, nous avons présenté ce qui avait été proposé par Octo sur l'atténuation, ce qui ressortait de l'organisation ICANN pour l'atténuation de ces problèmes. Donc nous avons discuté de tout ceci. L'étape suivante, c'est donc cette proposition du bureau technologie qui a été soumise à la communauté technique. Et donc la prochaine fois que nous nous réunirons, donc la semaine prochaine, au sein de la communauté technique, dans le cadre d'une liste de diffusion, nous allons donc aller de l'avant. Nous allons contacter le ERSAC. Le ERSAC fait partie de la discussion. Donc la discussion se poursuit. Entre-temps, je crois que le ERSAC a déjà exprimé son intérêt par rapport à ça. Nous en avons déjà parlé. Il y a différentes possibilités. Certains ont exprimé des préoccupations, dont d'autres ont appuyé la décision. Bras de micro. Alors, il y a plusieurs questions là-dessus. Donc, le DDoS, c'est la dernière chose. À mon avis, ce sera là-dessus que le dialogue sera le plus fourni en ce qui concerne la responsabilité. La question sur la responsabilité du Conseil et de la communauté, comme nous l'avons dit, nous y travaillons. Nous pensons que cette question recevra une réponse dans l'avis qui sera fourni au Conseil. Donc, la seule chose que j'ai à vous répondre là-dessus, c'est attendez de voir. Désolée de vous répondre comme ça, mais nous en sommes conscients. Nous avons passé pas mal de temps là-dessus, mais nous devons nous assurer de bien considérer tous les obstacles possibles, de manière à ce que le modèle que nous proposons traitera tous ces problèmes. Donc, ça prend un petit peu de temps. Du point de vue des demandes non techniques, donc ce n'est pas quelque chose qui fera partie du travail d'évolution, mais nous vous fournirons les outils pour que le Conseil puisse mettre ceci en œuvre. Donc, c'est aussi un enjeu politique. Et donc, il y a un comité technique. Donc, les choses ne sont pas forcément très claires. En termes de capacité pour les serveurs Racine, ce que je dois mentionner, c'est la croissance de la plateforme actuelle qui est au service de la Racine. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a un an ou un peu plus, on se disait 6 instances et maintenant on en a 950 dans le monde. Donc on est passé de 600 à 950. Donc la croissance se poursuit, elle est continue. Et comme vous l'avez dit, la première ligne de défense pour le DDoS, c'est pour le risque des DAS, c'est justement de s'occuper du risque des DAS. En ce qui concerne la racine L, c'est une discussion qui existe entre le RSAC et le conseil d'administration et c'est exactement ce qui se passe au niveau des opérateurs de serveurs racines. Donc on peut appliquer ça aux lettres aujourd'hui. Donc tout est fait au niveau des opérateurs. En ce qui concerne le DDoS, encore une fois, les menaces existent. Ce n'est pas une menace nouvelle au système de serveurs racines. C'est une menace qui a existé, qui existe depuis longtemps. Le RSAC s'en inquiète. Les opérateurs de serveurs s'en inquiètent. Ce qui est évident, étant donné les investissements pour élargir la plateforme. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une menace spécifique. N'importe quelle personne qui est sur Internet, en fait, court un risque. Dans notre discussion avec le bureau technologie, nous avons parlé justement de l'argument comme quoi la racine est en danger, est menacée, comme n'importe quelle autre plateforme. Il y a certainement des TLD qui courent le même risque et qui pourraient avoir un impact supérieur dans un délai plus court. Donc, nous avons énormément discuté de cette question. Voilà. Ceci étant, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que vous avez soulevées. Sinon, dites-le-moi. Chérie, nos micros. Alors, la question qui a été posée entraîne une autre question. Pourquoi maintenant? Alors, je vais vous demander de m'aider à y répondre. Notre mission a toujours été la sécurité, la stabilité de l'Internet, du système d'identificateur. Le système de serveurs racines, depuis toujours, a été très stable depuis l'existence, depuis la création de l'ICANN. Donc, nous nous devons d'expliquer pourquoi, tout d'un coup, nous soulevons cette question au RSAC, puisque le système est stable. Donc, c'est vrai, notre mission nous demande de nous assurer. Nous n'avons pas d'autorité directe sur les opérateurs de serveurs racines, mais notre mission nous le demande. Alors, pourquoi est-ce que cette question est devenue importante? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, si vous me le permettez, les changements que nous voyons du point de vue de la technologie qui font que cette question est pertinente. Ram au micro. Merci, Chérine. La discussion au Conseil est déjà de reconnaître que le DDoS n'est pas une menace nouvelle. Mais ce qui a accru l'attention du Conseil portée sur cette question, c'est le fait que les attaques prennent une ampleur supérieure de nos jours. Et en grande partie, la croissance, le nombre de ces attaques est de plus en plus important. Et donc, il faut reconnaître que ce n'est pas uniquement au niveau du système de serveurs racines. Alors, il y a un autre élément à prendre en considération. C'est donc la prolifération de dispositifs qui constamment sont connectés à l'Internet. Et donc, à leur état natif, ils ont des vulnérabilités, ils peuvent être entraînés dans un réseau zombie de manière beaucoup plus directe ou plus facilement. Et donc, tous les systèmes sources ouvertes font que tout est connecté, tout est sur un système de chaîne, et ça veut dire que les attaques sont beaucoup plus efficaces. Donc, ce n'est pas la question du DDoS, mais c'est la question du nombre d'attaques et de l'ampleur de ces attaques. Et le fait que cette évolution est plus rapide que l'évolution des réponses, des réactions. Et donc, il nous faut absolument avoir un système plus solide pour répondre à toutes ces préoccupations. Cavet au micro. Je vois que nous avons 6 opérateurs qui sont représentés ici sur les 12. Donc, la question que je me pose à nous tous, opérateurs, est-ce que cela vous empêche de dormir? Du point de vue technique, nous comprenons tous l'ampleur, la possibilité, ces menaces au système de serveurs racines. Mais est-ce que vraiment vous vous préoccupez très souvent de cette question? Est-ce qu'elle vous empêche de dormir? Jeff Husband, avec ISC, nous opérons la racine F. Un des atouts du système de serveurs, c'est la diversité des méthodes. Et donc, nos différentes organisations qui ont différentes approches. Et donc, en fait, cette combinaison d'approches représente un atout. Pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans l'Internet. Nous sommes vraiment là depuis longtemps. Nos employés, si on ajoute toute notre expérience, on est à des centaines d'années d'expérience. Donc vraiment, notre organisation est solide. Au cours de l'année passée, et 6 mois passés, nous avons augmenté notre capacité de bande passante en mettant à niveau tout le matériel qui existait. Avec Cloudflare, dans un partenariat avec Cloudflare, qui permet vraiment d'augmenter la bande passante. J'étais à Katmandou la semaine dernière et ils sont vraiment partout. Donc le volume de données qui nous fait peur, ce n'est pas vraiment un problème pour Cloudflare. Ça ne leur fait pas peur. Donc, toutes ces préoccupations, en fait, on est parti de ça, mais maintenant, ce n'est pas vraiment un problème. Dans le rapport du Bureau Technologie, apparemment, l'ICANN ne choisit pas, en tant qu'opérateur de racines, de procéder de la manière. Et c'est très bien, c'est bien qu'il y ait une divergence d'opinion, c'est positif. Maintenant, je vous propose une idée un peu folle. Nous avions eu l'idée d'avoir 10 000 petits dispositifs Cloudflare dans le monde entier pour avoir des CAPTCHA tellement petits que les DDoS ne peuvent jamais en fait prendre de l'ampleur, vraiment créer une immense tempête dans tout le système pour éviter en fait que la menace se répande dans le monde entier. Parce que l'idée du DDoS, c'est justement ça, que tout soit rassemblé à partir d'une attaque et se dissémine partout. Donc, personnellement, je dors très bien. Je pense que les choses avancent de manière positive. Et également, je crois que, par définition, il faut être humble et reconnaître que les attaques peuvent se produire. Il ne faut pas non plus prendre trop de fierté par rapport à ça. Lars Lehmann, de NetNode. J'aimerais ajouter un point là-dessus. Il y a d'autres mécanismes de défense qui sont en phase de déploiement. Du point de vue des filtres, du point de vue des liens entre les opérateurs de serveurs racines et les différents fournisseurs de services qui, en fait, amènent les attaques, qui sont les porteurs de ces attaques. Il y a tout un réseau de personnes dans notre organisation qui ont vraiment l'intention que tout continue de fonctionner de manière adéquate. Et ça, c'est une réelle ressource. Nous ne sommes pas seuls. Il y a tout un Internet qui est là pour nous aider et qui souhaite nous aider. Merci beaucoup, Ram. Ram au micro. Merci. J'aimerais revenir à une chose qui a été dite par rapport au rapport du Bureau Technologie et qui parlait de l'expansion de la racine L avec des groupements et des instances uniques. Donc, ce type d'expansion, ça peut s'appliquer à toutes les autres lettres, à mon avis. Au sein du Conseil, les choses ne sont pas nécessairement claires. Il n'est pas très clair de savoir s'il y a autant d'investissements en matière de développement des capacités, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient ou sensibilisé. Mais l'autre préoccupation que nous avons, c'est que on peut passer de 1,7 terabits à 5,7 terabits pour les attaques. C'est le souci. Mais est-ce qu'il y a une planification appropriée? Est-ce qu'il y a une gestion des risques appropriée? Quels sont les mécanismes d'atténuation qui existent chez ceux à qui on fait confiance pour l'opération des systèmes de serveurs racines? Donc c'est justement ce type de dialogue, ce type d'information dont le Conseil a besoin. Cela permettrait en fait de minimiser notre niveau de préoccupation. Alors autre chose qui pourrait être utile en matière de responsabilité, c'est donc d'avoir un rapport. Un rapport sur le niveau d'investissement, sur l'élargissement des capacités. Je pense qu'un niveau peut-être uniforme, c'est quelque chose qui pourrait être mis à disposition de la communauté, parce que ce n'est pas uniquement le Conseil qui se pose ces questions, c'est aussi la communauté. Nouvel intervenant. David, vous voulez prendre la parole par rapport à ça ou est-ce que c'est autre chose? Donc on va simplement vous demander de continuer sur cette question. Nouvel intervenant. Quelques petits points là-dessus. Donc, je comprends bien que nous sommes en train de nous poser des questions opérationnelles. Nous avons déjà mentionné le fait qu'il y a une responsabilité opérationnelle en dehors de... Il n'y a pas de responsabilité opérationnelle en dehors de la racine L. Donc, le travail sur l'évolution que nous effectuons a pour objectif de parler de la gouvernance et de la responsabilité opérationnelle. Alors, je sais qu'on parle de l'avenir, il y a un risque qui force ces questions opérationnelles. Donc, nous comprenons qu'il y a un besoin immédiat et qu'il y a également l'avenir, ce que l'on peut faire ou délivrer à l'avenir. Donc, voilà, je voulais clarifier un petit peu. Alors, pour être très honnête, en tant qu'opérateur, donc en tant que non-membre du RSAC, je ne sais pas quel est mon point de vue par rapport à ça. Je ne sais pas ce que dirait mon organisation par rapport à un grand rapport qui explique les capacités, les investissements, parce que ce qui n'est pas souhaitable, c'est de fournir une carte, une feuille de route pour les mauvais acteurs. Donc, il faut bien garder ceci présent à l'esprit parce que ce n'est pas une bonne idée de publier certaines informations. Donc, du point de vue opérationnel, pas du point de vue des politiques, cela représenterait un risque et il faut le prendre en compte. Le Conseil doit y penser, la communauté doit y penser lorsque ces questions sont posées. C'est ça le problème, en fait. Rame au micro. Oui. Il faut savoir que le conseil d'administration est d'accord là-dessus. Nous sommes tous d'accord. De toute évidence, on ne va pas fournir de feuille de route aux acteurs malveillants pour leur expliquer comment effectuer leurs attaques. Mais notre collaboration, à mon avis, doit inclure une des discussions que nous avons eues lors d'un atelier du Conseil. Imaginons qu'il y a une attaque, une grosse attaque, la racine ne fonctionne plus correctement. Qui va être présent au comité pour répondre aux questions et quelle sera la question? La question, ce sera, est-ce que vous étiez au courant qu'il pouvait y avoir une menace? Est-ce que vous saviez que cette menace avait le potentiel d'être énorme? Et est-ce que vous saviez qu'une partie de la racine pourrait être défaillante? Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de collaborer pour en arriver à décrire la situation tout en gardant à l'esprit que de l'autre côté, il faut faire attention pour ne pas exposer tout votre travail. Votre travail est excellent, c'est un travail important. On ne va pas le publier. Mais en même temps, du point de vue du Conseil, nous avons besoin d'une certaine visibilité, d'un certain niveau de confiance. Nous devons savoir qu'effectivement, vous faites le travail. Ce n'est pas simplement de vous entendre dire « Oui, oui, vous inquiétez pas, nous nous en occupons. » C'est ça. Je suis très honnête là avec vous. C'est en fait ça la nature de la question du conseil d'administration. Qu'avez-vous au micro ? Merci. Y a-t-il une réponse par rapport à ça ? Tripti au micro. Ram, j'aimerais vous répondre de manière, en fait, sur deux points. Nous comprenons tout à fait que vous avez besoin d'une petite explication. Nous respectons votre point de vue, nous le comprenons. Alors, que ce soit une attaque nucléaire, que ce soit une attaque dans le cyberespace, etc., tout ceci, nous en sommes conscients, ne l'oublions pas et nous améliorons nos opérations dans la mesure du possible. Alors, je comprends bien que nous devons vous fournir un rapport qui rassemble tout ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons au niveau des opérateurs de serveurs. Bien sûr que nous ne souhaitons pas nécessairement exposer tout le travail, tout le détail, mais au moins vous fournir quelque chose qui vous rassure. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes conscients. Et ce n'est pas uniquement le système de serveurs racine, mais c'est aussi pour n'importe quelle menace. C'est justement la raison pour laquelle nous travaillons sur cet avis, parce que nous comprenons bien que nous avons besoin d'être responsables. Qui sont nos parties prenantes ? Nous sommes là depuis le début et un moment viendra où nous ne serons plus là. Et donc, il nous faut absolument créer ce nouveau modèle. Nous le comprenons, mais en parallèle, nous continuons de renforcer nos services. Nous le faisons différemment. Nous sommes un groupe très diversifié. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Qu'avez-vous au micro ? J'avais demandé la permission à David de continuer cette discussion avant de passer à son commentaire. Alors, on va peut-être passer quelques minutes de plus sur ce sujet. Ram au micro. Je crois qu'on ne peut pas nécessairement résoudre la question maintenant, mais au moins le dialogue est lancé. Et je parle en mon propre nom, je ne parle pas au nom du Conseil, mais ce dont nous avons besoin, c'est un mécanisme qui nous permette de poursuivre le dialogue de manière continue, de manière à ce que le dialogue ne soit pas limité aux sessions, mais vraiment, il faudrait pouvoir le poursuivre, parce que, vous l'avez dit, ces menaces, nous en sommes conscients. Il y en a d'autres types de menaces, mais nous avons besoin d'un mécanisme qui nous permette de poursuivre cette boucle, ce dialogue. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais trouver un moyen de dialoguer à l'avenir, parce que pouvoir prendre le temps avec nous de vous poser les questions, écoutez ce qui nous inquiète, c'est à savoir à la fois le problème opérationnel, mais aussi de savoir quelle est votre réponse. Êtes-vous crédible et est-ce que vous pouvez nous le prouver? Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire si nous avons un dialogue continu.
Brad au micro, oui, pour répondre brièvement à votre commentaire sur le fait qu'on en est à 1,7 pour l'instant, on pourrait arriver à 5,7 terabits plus tard. Et on n'en est pas à une attaque de 1,1 pour l'instant. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe entre les bons et les méchants. Il y en a un qui avance, l'autre recule, prend une mesure, etc. Donc les vecteurs d'attaque changent sans arrêt et il faut essayer d'être de plus en plus créatif pour confronter les mauvais, les méchants. Nouvel intervenant micro, y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Ram au micro, oui, je vois que Lito est là, Lito et moi-même sommes co-président du comité de risque au conseil d'administration. Là, ce qu'il faut adopter, c'est une approche d'évaluation de risque. Il ne s'agit pas de connaître toutes les solutions qui existent, mais il s'agit de comprendre que les risques ainsi que l'atténuation des risques ont été analysés. Et il est réconfortant de savoir que ces mesures d'atténuation ont des chances assez raisonnables de réussite. Nouvel intervenant au micro. Oui, je voulais préciser un point. Le rapport fourni par le Bureau de la technologie au conseil d'administration avait pour but de montrer les différentes options qui s'offraient à l'organisation par rapport au contexte des opérations sur la racine L et aux options liées à la protection du serveur racine. L'objectif, ça n'était pas d'indiquer une décision déjà prise ou de privilégier telle ou telle approche, plutôt de faire des suggestions par rapport à l'opinion de notre bureau de la technologie, par rapport à une approche rationnelle qui pourrait être adoptée. Ce document, donc, n'implique pas un volume conséquent de dépenses en termes de ressources. Nouvel intervenant au micro, merci beaucoup. Passons-nous au point suivant, sauf s'il y a des questions ou commentaires, non ? Donc, deuxième question du RSAC au conseil d'administration. Quelle est la perspective du conseil d'administration sur le plan prévu de roulement de KSK ? Alors peut-être que je vais me tourner vers David pour répondre à cette question. David ? David Conrad au micro. Alors la situation actuelle est la suivante. Nous avons des données qui semblent indiquer que lorsque nous appliquons le roulement KSK, il y a un certain pourcentage de résolveurs qui vont être mal configurés et qui ne vont pas réussir à faire la résolution s'il y a validation du DNSSEC. Mais ces données ne sont pas très utiles, en fait, parce que la conception originale du roulement KSK se concentrait sur les utilisateurs qui étaient affectés, ce qui implique que seuls 0,5% des utilisateurs auraient un impact seraient affectés de manière négative par le roulement du KSK. Donc à l'heure actuelle, on en est à une période où on essaie d'obtenir des commentaires supplémentaires sur un plan proposé pour avancer vers le roulement de la KSK pour le 11 octobre 2018, quelles que soient les données que nous recevions de la part de ce qu'on connaît comme le rapport 80-45 de la part des résolveurs. Le problème, c'est de savoir quel est le point de vue du RSAC sur ce plan proposé et ce que proposerait le RSAC pour atténuer tout risque ou préoccupation associée au roulement KSK. Nouvel intervenant au micro. Oui, je vais répéter ce qui a été dit aussi lors de la réunion avec le bureau de technologie. Lorsque ce calendrier a été présenté, il est fort probable qu'en mai, il y ait une résolution de la part du conseil d'administration qui va demander un avis au RSAC. Mais c'est parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être, ou d'étapes qui doivent être franchies avant que le conseil d'administration prenne cette mesure. Donc, veuillez garder présent cela à l'esprit. Merci beaucoup. Dernière question. La question a été posée et entre-temps, il y a eu une évolution. Je vais demander à Brad de développer. Brad au micro, oui, je crois que cette question finalement n'est plus vraiment d'actualité. Elle est liée à la question de la GNSO qui attendait une réponse des différentes AC. Par rapport à l'ajout de 25 000 noms à l'espace de noms, Et le ERSAC a répondu. Et cette réponse a été posée au conseil d'administration bien avant que ces transactions aient lieu. Donc je ne suis pas sûre quel est le sentiment du conseil d'administration, mais je pense que cette question n'est plus d'actualité. Café au micro, merci beaucoup Brad. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce sujet? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, observations que les membres du ERSAC ou du conseil d'administration souhaiteraient aborder? D'ailleurs, puisque nous sommes un petit peu en avance, est-ce que dans la salle, il y a des questions à l'attention des membres du ERSAC ou du conseil d'administration? Si ce n'est pas le cas, nous allons lever cette séance. Merci à tous de votre participation.